Bonjour à tous aussi, à toutes. Alors je me présente rapidement, mais ça fait ma 10e année déjà que je suis aumônier diocésain du Rosaire, des équipes du Rosaire, pas du Rosaire, des équipes du Rosaire, hein. Presque 10 ans déjà, ça passe vite, hein. Et, parce qu'avant moi, donc, c'était Michel Paris, et puis avant on a parlé aussi de Jean-Luc Ballanche, mais ça remonte à 30 ans, alors vous voyez, 20 ans, 30 ans, tous les 10 ans, dans 10 ans on ne sait pas qui c'est qui sera là, mais... Est-ce qu'on sera encore tous là? Je ne sais pas. Hein? Alors j'habite à Nancray, où il y a le musée des maisons comtoises, et je dessers donc la paroisse du plateau de Bouclan, et puis la paroisse du plateau de Saône. Donc ça va de Beure, vous voyez Beure, et ensuite de Besançon à Passavant, hein? Au-dessus, après de presque, c'est la limite avec Baume-les-Dames. Oui. Voilà, en gros, voilà ce que j'ai. Et ça fait, je commence ma 5e année déjà aussi là, à Nancray-Saône. Est-ce que vous savez le chant Église aux 100 000 visages? On va peut-être chanter une fois. Vous l'entendez, Pierre? Eh bien, on va chanter. On va répéter une fois pour que tout le monde sache. Oui?
Église aux 100 000 visages. Ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le pain. Purifiez-vous du vieux levain. Devenez une pâte nouvelle. Mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux, Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu.
Voilà, 100 000 visages. Les visages, vous savez, il y en a plein là autour de l'image, hein. C'est des masques plutôt. Vous savez que ça représente aussi les masques du carnaval de Venise, qu'on voit comme ça, en blanc. Hein? Donc il y a différents visages, et si je regarde aussi tous vos visages, ben, il n'y en a pas un qui se ressemble, hein? Et puis nous sommes tous différents, il y en a qui sourient, il y en a qui sont plus tristes, ça dépend, bien plus mélancoliques, hein? il y a tout, dans une assemblée pareille, dans une église. Hein, surtout quand on voit les visages tout près, quand ils viennent communier, quand vous venez communier, on voit bien les visages. Alors, de quoi allons-nous vous parler? Bien sûr, des visages. Et je vais d'abord vous dire en introduction le nombre de fois qu'on trouve ce mot visage dans la Bible, 119 fois, et je dirai où. Ensuite, on verra que veut dire le mot visage, le mot briller. Et puis après, quelques pistes de réflexion sur, c'est le thème d'année, hein, qui a été proposé donc par les dominicains. Alors on verra d'abord dans les psaumes, c'est là qu'on en parle le plus. Voir Dieu, c'est le désir de l'homme. Ensuite, dans l'Ancien Testament, deux parties de l'Ancien Testament, on arrivera ensuite au Nouveau Testament, où Dieu en Jésus-Christ révèle son visage. Alors le visage du Christ, particulièrement dans le visage du plus petit, du plus humilié des hommes, et puis un visage du Christ défiguré, où brille la lumière du ressuscité. Voilà un peu en gros le plan de mon intervention ce matin. Alors, combien de fois nous trouvons ce mot « visage » dans la Bible? Eh bien, je vous le disais, 119 fois. Le visage, 23 fois. Il y a les traits du visage. Oui. 29 fois. Un visage sombre, un visage triste, 6 fois. Et un visage rayonnant, transfiguré, 9 fois. Il y a craché au visage, il y a le frappé au visage. Donc ça, on arrive dans la passion, hein, que c'est 7 fois. Ou bien visage contre terre, baisser le visage, baisser la terre, 4 fois. le visage et le cœur, ça va ensemble, six fois, ou cacher, voiler, couvrir, ça c'est avec, surtout avec Moïse, et puis les apparitions de Dieu avec Moïse, dans l'Exode, 13 fois, voir et revoir le visage, où le Seigneur tourne son visage, se détourner, cacher son visage, six fois. Vous voyez qu'on le trouve souvent dans la Bible, et depuis que je fais cette conférence, eh bien, on a vraiment l'occasion, presque tous les jours, dans les psaumes, dans les lectures de la messe aussi, ou dans les lectures de l'office des lectures du bréviaire, combien de fois on trouve ce mot « visage ». Alors, que veut dire ce mot « visage » D'où vient-il? Eh bien, ça vient du latin « visu », qui veut dire « aspect », hein, la face humaine aussi. Et puis, au figuré, il y a un visage rond, par exemple. Deuxièmement, il y a une personne identifiée par sa face. Je n'arrive pas à mettre un nom sur la tête, sur son visage. Hein, des fois, on cherche, on perd, on vieillit, puis on perd les noms, on ne sait plus à qui on a affaire, ou bien quelqu'un qu'on n'a pas vu souvent. On dit, ah, mais je ne sais plus quel nom mettre sur son visage. Oui. Et troisièmement aussi, l'expression des traits de la face. C'est-à-dire le mime, hein? C'est très important le mime aussi. Un visage sévère. Quatrièmement, il y a l'aspect d'une chose, une image. Il y a deux visages aussi d'une politique ou d'un politique, même sa vie. Il y a un visage découvert ou bien un visage humain. Faire son bon usage, faire bon visage à quelqu'un, se forcer à l'accueillir aimablement. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'expressions qui ont lieu avec ce mot « visage ». Et puis « briller ». Pourquoi ce verbe « briller » ? « Fait briller sur nous ton visage ». « Briller », c'est émettre ou réfléchir une vive lumière. Par exemple, les étoiles brillent. Ou bien son collier brille. Je vois la dame devant moi, elle a un beau collier qui brille. Hein ? Ou bien c'est... oui. Deuxièmement, c'est s'émerveiller aussi. Quelqu'un qui brille devant les autres, il s'émerveille. Et c'est s'illuminer, c'est pétiller aussi. Le regard pétillant, les yeux pétillants. C'est se faire remarquer par une qualité particulière. Par exemple, cette metteuse en scène brille par son audace. Vous voyez qu'on voit souvent donc ce mot « briller ». Alors on va associer les deux. Briller et visage. Alors dans la Bible aussi, il y a deux mots voisins pour désigner le visage d'un Dieu qui cherche à se révéler. Car c'est ça qui est important, c'est redécouvrir le visage de Dieu. On ne l'a jamais vu. Vous savez que personne ne l'a jamais vu. Alors il y a d'abord le nom de Dieu qui désigne l'identité de celui qui parle dans son individualité, puis il y a la face de Dieu, à la fois le nom de Dieu et la face de Dieu qui révèle ou qui renvoie à la personnalité de celui qui parle et à sa mise en relation avec d'autres. Alors je vous avais annoncé, premièrement, donc, c'est dans les psaumes qu'on voit le plus ce mot « visage ». Dans les psaumes, voir la face de Dieu, c'est le désir de l'homme. Montre-moi ton visage, fais briller sur nous ton visage. Alors premièrement, dans les psaumes, l'homme priant exprime fortement son désir de voir la face de Dieu. Et peut-être que nous aussi, on désire voir la face de Dieu, mais on ne peut pas la voir tant qu'on est humain. Il faudra attendre notre mort, le passage dans la vie éternelle, hein, pour voir la face de Dieu. On ne sait pas si on sera déçu, si on sera au contraire émerveillé. Alors il y a le psaume 41 qui dit « Mon âme a soif de Dieu ». Bon, vous les connaissez tous ces psaumes. Hein. « Le Dieu vivant, quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Voilà le désir de l'homme de paraître face à Dieu. Puis deuxièmement, le psaume 26, « Ma lumière est mon salut », etc. Donc, Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Ou bien, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Voilà, bonjour Joseph qui vient. Hein, ça va? Oui. On découvre la face d'un Joseph, un autre Joseph. Mais, hein, c'est pour ça que je l'appelle. Deuxièmement, dans les psaumes, si l'homme désire ardemment voir la face de Dieu, eh bien, Dieu désire aussi que l'homme se tourne vers lui et lui montre son visage. Parce que quelquefois, l'homme se cache, rappelez-vous, Adam et Ève, hein, dans le paradis, une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont détournés de Dieu, ils ont caché leur visage. L'homme juste qui vit dans la droiture ne dissimule pas son visage. Et il voit le Seigneur face à face. Au psaume 10, vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Alors, donc il y a l'homme juste, et puis deuxièmement, il y a l'impie, à l'inverse, qui pense pouvoir agir sans être vu de Dieu, et qui perçoit Dieu comme se voilant la face. Le psaume 36, « Hors de la face du Seigneur, l'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant car il voit son jour qui arrive. » Et puis, il y a le pécheur. Il y a l'homme juste, il y a l'impie, le pécheur, quant à lui, perçoit comme une souffrance que Dieu se voile la face. On voudrait bien voir ce Dieu, mais ce n'est pas possible. Combien de temps, le psaume 12, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Vous voyez qu'on en parle beaucoup. Et en même temps, le pécheur souhaite que Dieu détourne la face de ses fautes. Le psaume 50, que vous connaissez certainement par cœur, qu'on appelle le Miserere. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Et pourtant, voir la face de Dieu manifeste le retour en grâce pour le pécheur converti. C'est le psaume 79. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Il y a des refrains aussi que vous retrouvez quand on chante un psaume le dimanche. Hein, fais-nous revenir à toi. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Les psaumes, je n'ai pas dit, mais vous savez qu'il y en a 150. Il y a 150 psaumes. On les attribue après à peu près au temps de David. David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein, Moïse, c'est 1250 ans, donc David, c'est 250 ans après. Mais il y a surtout David et Salomon, son fils. Et puis, David n'a pas tout écrit les psaumes non plus. Mais on les attribue plutôt à David parce qu'il était plus connu que tous les inconnus. Hein? Et bien souvent, dans la Bible, les textes sont écrits par des inconnus. Il y a même des lectures dans le Nouveau Testament. Mais on les attribue à Paul, par exemple comme la lettre aux Hébreux, parce qu'il est plus connu que tous ces inconnus. Hein? Alors les psaumes, c'est pareil. Et puis les psaumes, on les lit souvent, surtout aux bréviaires, ou ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la prière du temps présent. Vous savez qu'il y a l'office des lectures, l'office des laudes, l'office du milieu du jour, il y a les vêpres, et puis les complies. Nous avons 5 temps de prière des psaumes, et chaque fois de prière dans la journée, et chaque fois il y a 2 ou 3 psaumes. Hein? Alors ça fait presque quand même pas mal de psaumes qu'on peut dire par jour. Je ne sais pas, à part les religieuses, ou bien les religieux, les prêtres, parce qu'il y a quand même un prêtre parmi nous, il y a Pierre, hein, qui dort, non? Oui. Bon, Tu vas le présenter Pierre quand même, puis il y a une religieuse aussi, Cécile, parmi nous. Est-ce qu'il y a d'autres religieuses, non? Non, qui disent en communauté, qui disent donc le prière du temps présent ou le bréviaire chaque jour. Et donc on récite les psaumes. Puis maintenant les laïcs aussi, il y a pas mal qui ont un bréviaire et qui lisent le bréviaire, ou bien un magnificat, vous avez aussi des psaumes, et la prière du matin, la prière du soir. Oui, donc on retrouve tout ça et vous allez retrouver tout ça dans les lectures. Alors deuxièmement, après les psaumes, l'Ancien Testament, quoique les psaumes font partie de l'Ancien Testament, hein. Si l'homme désire voir la face de Dieu, celui-ci reste cependant ce qu'on appelle ineffable. C'est-à-dire, on ne peut pas l'exprimer. Hein? Le visage de Dieu, la face de Dieu, on désire la voir, mais on ne peut pas la voir. Alors, premièrement, la face de Dieu que l'homme désire tant voir dans les psaumes, on ne peut cependant la voir, comme l'affirme si bien le livre de l'Exode. Après que le peuple ait essayé de se faire une image de Dieu à travers l'idole du Vaudan. Rappelez-vous, on l'a lu là au mois de septembre, dans une première lecture de la messe le dimanche, où Moïse est en train de parler avec Dieu, et puis Dieu lui dit, mais descends vite, redescends vite du Sinaï, parce que le peuple est en train de faire des idoles, de faire un veau. Hein, c'est Aaron, son frère, qui avait ramassé tous les bijoux des gens pour faire une idole, pour faire des idoles. Parce que Moïse avait dit à Dieu, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Oui, la gloire, le visage, la face, c'est tout un petit peu les mêmes mots qu'on retrouve. Hein. Et puis Dieu dit, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le Seigneur dit en fait, « Voilà, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Donc j'insiste beaucoup, mais il faut bien savoir que le visage de Dieu, on ne peut pas le voir. Alors deuxièmement, dans tout le chemin de l'Exode, c'est-à-dire quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte après le passage de la mer Rouge, eh bien il fallait bien qu'il y ait un guide pour les conduire en terre promise, en pays de Canaan. Alors la présence de Dieu se manifeste par une nuée lumineuse qui précédait donc tout ce monde, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, c'était des milliers de personnes, avec tous leurs troupeaux, avec tous leurs biens, hein, puisqu'ils ont mis 40 ans, les Hébreux, quand même, pour sortir d'Égypte et puis arriver en terre promise, faut pas l'oublier. Si quelque chose de la lumière de Dieu s'y révèle, une brume semble le voiler tout autant. Si Dieu reste auprès de son peuple pour éclairer ses pas, et cheminer avec lui, il reste cependant ineffable, c'est-à-dire qu'il ne peut être exprimé. Et troisièmement, dans ce paragraphe de l'Ancien Testament, si Dieu, dans sa miséricorde, tourne sa face vers les hommes qu'il aime, c'est là une source de grande bénédiction. Voilà, l'homme est béni et Dieu bénit l'homme qui se tourne vers lui parce qu'il lui permet d'être le reflet de son visage. Mais paradoxalement, si l'homme peut être le reflet de sa lumière, cette lumière aussi l'empêche bien sûr de voir la face de Dieu. Parce qu'on ne peut pas regarder le soleil en face, à moins d'avoir des lunettes spéciales. Mais si vous regardez le soleil hein, sans lunettes de soleil ou bien plus fortes, eh bien vous êtes vite aveuglé ou brûlé. C'est dans les nombres ça. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Vous voyez, ça se tient. Alors troisièmement, dans cette première partie, si dans l'Ancien Testament Dieu demeure ineffable, il dévoile indirectement sa face à travers des médiations. Alors, quelles sont ces médiations? Eh bien, il y a tout d'abord la création, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, nous sommes le reflet de Dieu. Si nous nous regardons dans un miroir, dans une glace, nous ne sommes pas Dieu, il ne faut pas l'oublier, mais nous sommes le reflet de Dieu. Hein? Le visage de l'homme reflète celui de Dieu. S'il y a quelque chose de divin en l'homme, il y a aussi quelque chose d'humain en Dieu. Donc, premièrement, la création, et puis, deuxièmement, je vous disais, la révélation en Moïse, au buisson ardent. Et ça, tout le monde la connaît. Et puis, troisièmement, progressivement, Dieu rendra possible sa connaissance par l'homme en s'approchant peu à peu de lui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dieu ne s'est pas approché de l'homme comme ça du jour au lendemain. Il a fallu du temps. C'est lui qui parcourra le chemin jusqu'à l'homme pour que celui-ci découvre sa face et en devienne le reflet. Tel Moïse, qui parlant avec Dieu, tel un ami parle avec son ami, aura le visage tout rayonnant de lumière quand il revenait de sous la tente ou bien dans le désert. Il parlait avec Dieu loin du peuple. Hein? Eh bien, les autres voyaient bien que son visage avait changé. Hein, par exemple, Exode 34. Quand Moïse eut fini de leur parler, il met un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçu, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Voyez cet échange qu'il y avait, hein, de voile, de pas de voile, de visage, de rayonnement du visage, pas de visage. Hein, Dieu se rend petit à petit possible sa connaissance par l'homme. Alors on peut chanter... Hein. On prendra le deuxième couplet.
Ouvre le visage, ouvre ton cœur, lève les yeux. Et vis au sang, mais le partage. Ouvre ton cœur, au nom de Dieu. Approchez Jésus-Christ, nous enseigne sa parole de vie et d'amour. Purifiez-vous des vieux discours, devenez les témoins de sa grâce. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur.
Alors après les psaumes, après l'Ancien Testament, ben nous arrivons au Nouveau Testament, où là Dieu, eh bien, va révéler son visage par son Fils, Jésus-Christ. Hein? Parce que, c'est, par exemple, l'épisode de Philippe, hein, au chapitre 14 de Saint Jean, Philippe qui dit à Jésus, mais montre-nous le Père. Et puis Jésus qui lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, le voir, c'est voir le Père lui-même. Mais nous, bien sûr, on n'a pas cette chance, hein, de voir Jésus. On peut deviner ce qui s'est passé il y a 2000 ans, quand Jésus allait de ville en village en Galilée. Il y avait son visage. On essayait de représenter le visage du Christ avec une grande barbe ou bien sans barbe, ça dépend. Hein, au cours des siècles, on a fait des grands cheveux, tout ça, un joli visage, bien sûr, et puis comment on appelle ça, oui, un visage d'ange, comme on dit, oui, hein. Puis jeune, toujours jeune, Jésus, toujours jeune, hein. Lumineux aussi, mais quoi qu'il a pleuré quand même, hein. Et on verra aussi, oui, il a versé des larmes. Hein. les représentations, oui. Il n'y a que les orthodoxes et puis les catholiques qui représentent Dieu ou Jésus, hein. Vous savez que les protestants, ils ne veulent pas représenter, et puis après les musulmans, combien ? Bien, moi non plus, les juifs non plus, on ne représente pas. Comment ?
Ah bon, j'en ai
appris. Ah non, ils ne représentent jamais. Dans les temples, vous ne voyez jamais d'abord un Christ, un homme sur une croix. Hein ? Ah non, il n'y a que nous, catholiques, et puis les orthodoxes aussi. Oui, qui peignent des icônes, il y a beaucoup d'icônes chez les orthodoxes. Mais autrement, on ne représente pas. Et parce que c'est marqué dans la Bible, tu ne représenteras pas ton Dieu.
Hein? Et les Anglicans ?
Ah ben si, ils sont proches de nous. Ils sont proches de nous, les Anglicans, c'est un peu pareil que nous. Hein? Il n'y a que l'autorité de la reine, c'est tout, qui remplace le pape. Ben oui, depuis Henri VIII, depuis le fameux divorce d'Henri VIII, il s'est dit, ben moi, puisque le pape ne peut pas me donner l'autorisation de divorcer, c'est moi qui deviens le chef de l'Église, et puis c'est là qu'il y a une scission, quoi. Voilà. Puis le Dieu, donc longtemps invisible dans l'Ancien Testament, bien s'est rendu visible en Jésus-Christ. C'est au Colossiens, Saint Paul qui nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Alors premièrement, cependant, pour connaître le visage du Christ maintenant, que nous ne voyons pas bien sûr avec nos yeux de chair, eh bien il faut continuer à le chercher comme Marie et Joseph le jour du recouvrement au temple. C'est au chapitre 2 de Saint Luc. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il était soumis. Donc il avait 12 ans là, hein, Jésus. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Oui, puisque après, on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à l'âge de 30 ans, devant Dieu et devant les hommes. Si Jésus grandit en taille et en sagesse, cela veut dire aussi que son visage se transforme et qu'il nous faut continuer à nous laisser surprendre par son visage. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de photo, pas de télévision, donc on ne sait pas exactement comment était ce visage. Deuxièmement, le visage du Christ, et là ça va être un peu plus précis, se manifeste particulièrement dans le visage du plus petit. Au début, en s'incarnant dans le nouveau-né de Bethléem, Dieu prend visage humain. C'est toujours au chapitre 2 de Luc, puisqu'il n'y a que Luc qui parle. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et puis ensuite, il y a eu le ministère public de Jésus. Il exulte de joie, affirmant que les plus petits ont une capacité particulière pour entrer dans l'intimité du Père et le connaître. Alors on va en parler dimanche, puisque dimanche, vous savez que le pape a voulu en faire le troisième dimanche du mois de novembre, le dimanche de la pauvreté. Le dimanche des exclus. Et puis nous, en France, ça a toujours été la journée nationale du secours catholique. Alors ça fait un peu les deux journées ensemble, mais c'est les mêmes journées, la pauvreté et le secours catholique, qui vient en aide donc à la pauvreté. Pendant, donc, Matthieu 11, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, c'est Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et puis au terme, lors du jugement dernier, Dieu révèle encore sa présence sous les traits du visage des plus petits et des plus pauvres. Alors là, nous arrivons au chapitre 25e de Matthieu, c'est le jugement dernier. Hein, quand on lui pose, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Eh bien, Jésus qui répond, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein? Visage du pauvre, visage de Jésus, visage de Dieu. Alors qu'on imagine un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout faire, mais non, nous avons un Dieu qui est pauvre, qui a un visage de pauvre, un visage non pas tout-puissant, mais tout-puissant d'amour. Alors le visage du Christ, comment se manifeste-t-il? Il se manifeste justement dans le visage du plus humilié des hommes. Alors là, il faut lire la Passion. Hein, c'est sur son chemin de la Passion, Jésus se révèle comme le vrai serviteur souffrant, attendu par Israël. Et il prend le visage du plus défiguré des hommes, celui dont devant qui on se voile la face. Ça, c'est Isaïe 52, le serviteur souffrant. Ce qu'on appelle aussi les chants du serviteur souffrant. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Donc ça, c'est une prédiction d'Isaïe. Hein, on va le retrouver donc dans la Passion, quand il sera flagellé, quand il lui aura craché au visage et tout ça. Encore dans Isaïe, je reprends, il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous qui pensions, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Alors c'est vers la croix qu'il faut regarder. Au Jean chapitre 19, un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils auront transpercé. » Mais sur le visage du Christ, il n'y a pas que la souffrance. Hein? Deuxièmement ou quatrièmement, il y a aussi la vision du ressuscité. Même défiguré, le visage du Christ brille. Sur le visage du Christ brille la lumière du ressuscité. Alors, il y a d'abord donc le serviteur humilié est celui que Dieu a choisi pour en faire la lumière des nations. Et sous la défiguration brille la lumière d'un Dieu de compassion. Isaïe, toujours 49, il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener des rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est en lien avec Isaïe. Puis deuxièmement, il y a bien sûr l'épisode de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean qui l'emmènent sur le mont Tabor. Hein, et puis là, il est transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Le visage du ressuscité aussi se cache sous les traits de visages ordinaires. Alors, par exemple, après la résurrection, le jardinier, puisque Marie-Madeleine, eh bien, le prend pour le jardinier. Elle ne le reconnaissait pas. Elle ne le reconnaît pas. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu ?» Et là, le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie, s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Voilà, elle le reconnaît. Et au départ, elle l'a pris pour le jardinier. Et puis, il y a les compagnons de route, les compagnons d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas non plus. Mais il a fallu qu'ils mangent ensemble, qu'ils prennent encore du pain, et puis, là, il a rompu le pain, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Et puis, en dernier point, donc la découverte et la contemplation du visage du ressuscité nous révèlent notre vrai visage à nous. Maintenant, il y a bien sûr le visage de Dieu, le visage du Christ, le visage des pauvres, et nous, nos visages, pas seulement un visage, mais tous nos visages rassemblés. Hein. Il nous permet donc de devenir d'ores et déjà son reflet. C'est 2 Corinthiens, Saint Paul qui nous parle dans sa lettre aux Corinthiens. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. Deuxièmement, même si notre vrai visage d'enfant de Dieu ne sera pleinement manifesté qu'à la fin, hein, ça je le dis au début, voilà Saint Jean qui nous le dit dans sa première lettre, « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Alhamdoulilah, on pourrait dire en arabe, hein, Alhamdoulilah. Et puis, dernier point, lorsque rassemblés dans la Jérusalem céleste, nous verrons sa face, nous n'aurons plus besoin de la lumière du soleil. C'est de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse au chapitre 22e. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de lumière, d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alors, on peut prendre le deuxième et le troisième couplet. Troisième, Église aux 100 000 visages.
Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Approchez Jésus-Christ, nous rassemble, nous sommes ses enfants bien-aimés. Purifiez-vous des faux semblants et chantons notre joie d'être frères. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages.